qui s'intitule, qui a pour titre, Qu'est-ce que la Bible ? Est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois ? C'est-à-dire qui n'ont pas suivi les deux séances précédentes ? D'accord, vous êtes plusieurs. D'accord, vous êtes quand même assez nombreux. C'est pas un problème. La première fois, nous avons parlé de la parole de Dieu à la première séance. À la séance précédente, la question était « Qui est Jésus-Christ ?» Et aujourd'hui, la question, c'est donc « Qu'est-ce que la Bible ?» En travaillant pour cette soirée, la réponse pour moi est devenue de moins en moins claire. C'est-à-dire que la Bible, tout le monde sait ce que c'est tant qu'on ne s'est pas penché sur la question, mais dès qu'on se penche sur la question pour savoir ce que c'est que la Bible, les choses deviennent assez compliquées. Une première réponse que l'on pourrait faire, c'est la Bible, c'est un livre. Voilà. L'objet Bible appartient à l'ensemble des objets livres. Un livre, c'est une manière de conserver de l'écriture. Donc, on pourrait réfléchir à questions très compliquées, à ce que c'est que l'écriture et ce que c'est qu'un livre. Mais je vais laisser de côté ces questions pour essayer de caractériser pendant l'heure et demie que nous avons, dans un temps pour des questions, ce que c'est que cet objet, ce livre, qu'on appelle la Bible. On peut se poser plusieurs questions. J'en ai retenu trois groupes de questions qui me sont venues à l'esprit. D'abord, quel est le contenu de ce livre? De quoi parle-t-il? Une manière de répondre à la question de ce que c'est que la Bible, c'est de dire de quoi parle ce livre. Une autre question, c'est qui a écrit ce livre? Question difficile. Qui a écrit ce livre? La Bible n'a pas un auteur. On ne peut pas identifier quelqu'un qui serait l'auteur de la Bible, d'une part. D'autre part, ce livre, pour un groupe d'individus, des juifs, des chrétiens, ce livre est dit inspiré, donc il a en un sens Dieu pour auteur, donc la question de l'auteur de ce livre est une question compliquée. Enfin, troisième groupe de questions que je me suis posé, ça pourrait être, on peut dire ça comme ça, que dit-on de ce livre? Comment est-il reçu? Quel effet a-t-il eu dans l'histoire? Car c'est un livre particulier, la Bible, puisque c'est un livre dont des gens disent que c'est la parole de Dieu. Ce qui n'est pas le cas d'un roman de Balzac, par exemple. Peu de personnes disent que c'est la parole de Dieu. En tout cas, ce ne sont pas des livres qui engendrent des communautés. La Bible est un livre qui est à l'origine d'une communauté, d'un peuple, le peuple juif, et puis ensuite le peuple chrétien. Qu'est-ce que veut dire donc que ce livre est la parole de Dieu? On constate également que c'est un livre qui a des effets considérables dans l'histoire, en particulier dans l'histoire de l'Occident. C'est une clé de lecture, ce livre, nécessaire pour comprendre l'histoire de l'Occident. On ne peut pas comprendre l'histoire de l'Occident si on n'a pas la Bible. C'est, en plusieurs exemples, c'est évident pour l'histoire de la peinture. La peinture de de Florence, de la ville de Florence au XVIe siècle, toute l'histoire de la peinture ne peut pas être intelligible si on n'a pas comme clé de compréhension la Bible. C'est vrai aussi l'histoire de la musique. C'est vrai aussi, pour une partie, pour l'histoire de notre société occidentale, pour la manière dont elle s'organise, comment s'organise le pouvoir, comment l'institution temporelle se distingue de l'institution spirituelle, etc. Donc la Bible est, disons, la clé de lecture pour comprendre l'histoire de l'Occident. Je note que c'est un livre extrêmement lu. On pourrait dire la Bible, c'est un livre lu 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, il y a des gens qui lisent la Bible. C'est sans doute un cas particulier de ce livre-là. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ce livre, il y a un livre qu'on appelle le livre des psaumes, et que les psaumes sont des prières qui sont dites et chantées par l'ensemble des prêtres, des religieux, des moines du monde entier. Et donc, c'est un livre, en ce sens-là, qui est lu, médité, prié, 24 heures sur 24, en permanence, il y a des gens qui lisent ce livre. C'est un livre qui, au XXe siècle, a été lu et interprété par plusieurs grands philosophes. C'est un livre qui a inspiré, et qui a inspiré fortement l'histoire de la philosophie au XXe siècle, que ce soit la philosophie, disons, si on reste parmi les philosophes français, que ce soit la philosophie juive, Emmanuel Levinas, ou que ce soit un philosophe protestant, Paul Ricoeur, ou que ce soit un philosophe dont l'itinéraire va l'amener à se rapprocher du catholicisme, Michel Henry. C'est un livre dont l'histoire de la rédaction est complexe. Et je voudrais commencer par là, après ces mots d'introduction. C'est un livre dont l'histoire de la rédaction est complexe. C'est un livre qui est formé de deux ensembles. C'est un livre qui est plié, qui est replié, il y a une pliure au milieu du livre, qui permet de séparer deux ensembles de tailles différentes. Un ensemble que... on appelle l'Ancien Testament, et un ensemble qu'on appelle le Nouveau Testament. Pour dire les choses, donner des ordres de grandeur, l'Ancien Testament c'est 1500 pages, le Nouveau Testament c'est 500 pages. Donc on a trois quarts de ce livre que l'on appelle l'Ancien Testament, et un quart que l'on appelle le Nouveau Testament. Ces deux parties sont en un sens autonome, puisque ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, c'est uniquement cette partie-là que les juifs appellent la Bible. Donc cette partie-là peut se comprendre de manière autonome. Ce qui n'est pas le cas du Nouveau Testament. On ne peut pas comprendre le Nouveau Testament, partie suivante, si on ne connaît pas l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est inintelligible pour quelqu'un qui ne connaît pas l'Ancien Testament. Mais les chrétiens disent également que le Nouveau Testament est la clé de compréhension de l'Ancien Testament. Donc pour un chrétien, on ne peut pas comprendre l'Ancien Testament si on ne le comprend pas à la lumière du Nouveau Testament, de l'événement qui a lieu entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans cette jointure entre ces deux parties, qu'on peut appeler l'événement Jésus-Christ. Je prends un exemple parmi les autres. Saint-Luc met dans la bouche de Jésus, dans la bouche de Marie, un texte qu'on appelle le Magnificat. Or, le Magnificat, on accède à l'intelligibilité de ce texte que si on comprend qu'il est composé de versets de l'Ancien Testament, et donc c'est à la lumière de l'Ancien Testament qu'on peut comprendre ce texte. On trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, on appelle le Magnificat. Ce livre connaît également, ce qui lui est propre, ce qui n'est pas le cas de la majorité des livres, une pliure, si je reprends cette expression, linguistique. C'est un livre qui est écrit en plusieurs langues. Ce livre est composé d'abord de... c'est un livre qui est composé de plusieurs livres, la Bible. Il faut pour être bien clair, il faut dire ça, c'est-à-dire que c'est un livre. Quand je parle de la Bible, je dis c'est un livre. En réalité, c'est pas un livre, parce que c'est un livre composé de plusieurs livres. Nous disons la Bible en français, un mot féminin singulier, qui est une transcription latine d'un mot grec qui est au neutre pluriel, ta biblia. Et ta biblia, en grec, ça désigne un ensemble de livres. Un ensemble de livres. On retrouve cette ambiguïté du singulier et du pluriel lorsque l'on dit alternativement l'écriture, pour parler de la Bible, l'écriture, ou les écritures. Donc là, on a aussi une ambiguïté singulier-pluriel. pour y parler de la Bible, dans la Bible elle-même, on dit, on emploie aussi l'expression la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Là, c'est un livre qui est désigné par deux ensembles. Ou Moïse et les prophètes, comme disent les Juifs. Moïse et les prophètes. Donc c'est un livre qui est écrit en hébreu, premièrement. 24 livres de la Bible sont écrits en hébreu. 24 livres répartis selon trois ensembles, hiérarchisés, un ensemble principal, qu'on appelle en français le Pentateuque, que les Juifs appellent la Torah, la loi, ensemble de 5 livres, les 5 premiers dans l'ordre de nos Bibles à nous, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Et puis un deuxième ensemble, les prophètes, dont on connaît tous les principaux, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, dont certains sont assez connus, Jonas, par exemple. Et troisième ensemble, les écrits, ou les hagiographes, un ensemble de livres qui relève d'un style littéraire qui est l'écrit de sagesse. Et dans cet ensemble, les écrits ou les hagiographes, on trouve par exemple le livre de Job, les psaumes, le cantique des cantiques, etc. Ces 24 livres écrits en hébreu le sont entre, je prends des dates larges, entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 3e. Voilà. On a un moment important dans l'histoire d'Israël, c'est le 6e siècle, le moment de l'exil. Et dans les deux siècles qui précèdent l'exil, 8e et 7e, on a une institution royale, des rois, et on a des prophètes qui parlent et dont on commence à noter par écrit ce qu'ils ont dit. Puis exil à Babylone, 6e siècle, retour d'exil, 5e siècle, 4e siècle, constitution de la Bible en hébreu. Au 3e siècle, et du 3e au 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a un événement important qui est la traduction de la Bible de l'hébreu en grec. Événement important, puisque ça veut dire que la Bible, considérée comme la parole de Dieu, peut être traduite dans une autre langue. Et là, il y a des enjeux théologiques importants. Le Coran a fait un autre choix. Le Coran ne se traduit pas, ou plutôt les traductions du Coran n'ont pas la même valeur que le Coran écrit en arabe. Ce n'est pas le cas de la Bible. La Bible se traduit. La parole de Dieu se dit aussi bien en hébreu qu'en grec que dans les autres langues. Dire que la Bible est traduite en grec en 3e, 2e et 1er siècle, ça prend du temps, c'est dire aussi qu'au 3e siècle, l'ensemble des 24 livres écrits en hébreu forment déjà un ensemble cohérent. On a déjà, la Bible existe déjà en tant que telle. Vous voyez, il faut distinguer le processus de rédaction des textes et puis la reconnaissance d'un ensemble, comme on dit, la canonisation des textes, la reconnaissance d'un ensemble cohérent mis à part du reste de la littérature d'une époque. Donc, au 3e siècle avant Jésus-Christ, il y a déjà quelque chose qui s'appelle la Bible et qui peut être traduite, cet ensemble peut être traduit en grec. Et puis, au 3e siècle, 2e siècle et 1er siècle avant Jésus-Christ, d'autres livres vont être écrits directement en grec. Et ces livres vont faire partie de l'Ancien Testament. Donc, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est un ensemble de 46 livres, écrits certains en hébreu, d'autres en grec, et certaines parties en araméen, troisième langue. Donc un livre écrit dans trois langues. Donc déjà, les choses se complexifient, puisque on a deux ensembles cohérents et différents. On a 24 livres en hébreu, donc on a une Bible hébraïque qui va avoir son histoire propre, et puis une Bible grecque plus vaste qui va avoir aussi son histoire propre. Donc on a déjà deux Bibles. Et au moment premier siècle après Jésus-Christ, on a deux Bibles disponibles, une Bible en hébreu, une Bible en grec, qui n'ont pas le même contenu, dont certains livres portent le même titre, par exemple le livre d'Esther, mais qui ont des contenus différents dans la version en hébreu et dans la version en grec. Troisième moment de constitution de la Bible, cette partie que l'on appelle le Nouveau Testament, composée de différents textes qui n'ont pas le même statut, quatre textes qu'on appelle des évangiles, un texte qui relève du genre littéraire qu'on appelle les actes des apôtres, qui est la deuxième partie, si je puis dire, qui est le pendant de l'évangile de Luc. Il y a l'évangile de Luc, et Luc est aussi également l'auteur des actes des apôtres. Il y a des lettres, un certain nombre, et puis il y a une Apocalypse, un texte qui relève de ce genre littéraire, qui est l'Apocalypse. Tous ces textes étant composés entre l'an 40 et l'an 120, après Jésus-Christ. Ces textes sont attribués à des apôtres. Un évangile est attribué à Matthieu, un autre est attribué à Marc, un autre à Jean. Il fait la différence entre l'attribution à un auteur et les rédacteurs des textes. C'est deux réalités un peu différentes. Pareil pour les lettres. Il y a des lettres qui peuvent être attribuées à Pierre. Par exemple, la deuxième lettre de Pierre, qui est sans doute le dernier texte du Nouveau Testament qui date du début du IIe siècle. Donc, il y a un processus long, complexe, de rédaction des textes, et puis il y a un processus ensuite de choix. Pourquoi on a choisi cet Apocalypse et pas une autre? Pourquoi on a choisi ces évangiles-là et pas d'autres? Pourquoi ces lettres et pas d'autres? C'est une histoire complexe, longue, puisque ce n'est qu'au Concile de Trente, c'est-à-dire au XVIe siècle, que l'Église catholique, fixe le canon des Écritures, comme on dit, c'est-à-dire reconnaît les Écritures qui font partie de cet ensemble mis à part qui s'appelle la Bible. Le canon des Écritures varie selon les Églises. Les catholiques n'ont pas la même Bible que les protestants ni que les orthodoxes. Tous les orthodoxes n'ont pas la même Bible et tous les catholiques eux-mêmes n'ont pas la même Bible puisque les catholiques orientaux ont des livres bibliques qui sont lus à la messe, qui ne font pas partie de notre Bible à nous. Donc, la question de savoir quels sont les livres qui font partie de la Bible est aussi une question compliquée. Nous n'avons pas tous la même Bible. Ensuite, se pose le problème du contenu des livres bibliques. Il y a un livre qui s'appelle « Les Actes des Apôtres ». Or, ce livre existe selon plusieurs versions, deux versions principales, une version beaucoup plus longue, un tiers plus longue qu'une autre. Donc nous avons à disposition deux versions des Actes des Apôtres. Or, lorsque l'Église catholique dit « les Actes des Apôtres, c'est la Bible », l'Église catholique ne précise pas quelle version est la Bible. Donc, il faut faire un choix pour savoir quel texte des Actes des Apôtres on va retenir comme étant la Bible. Plus compliqué encore, je voudrais dire un tout petit mot de ce qu'on appelle la critique textuelle. Au fond, nous ne disposons pas du texte original. Nous ne disposons pas du manuscrit autographe d'un auteur, même l'auteur final, qui aurait repris l'ensemble des traditions et aurait écrit, rédigé, recopié la Genèse, l'Exode, les Évangiles, etc. Nous disposons de copies, etc. Nous disposons d'un ensemble de copies, parfois des livres intégrales, des manuscrits intégraux de la Bible, assez anciens, du 4e, 5e siècle, parfois des morceaux de la Bible, sur différents supports, des rouleaux, papyrus, ou des parchemins, c'est-à-dire la peau de mouton, ou des vélins, c'est-à-dire la peau de veau, sur lesquels on écrit la Bible. Et puis, des codex, invention du deuxième siècle, peut-être, c'est-à-dire cette idée originale qui arrive au deuxième siècle, où c'est à prendre des morceaux, des feuilles, et à les relier ensemble pour faire les livres. Ce qu'on appelle un livre, c'est-à-dire un ensemble de feuilles reliées ensemble, c'est quelque chose qui apparaît au deuxième siècle de notre ère. Avant, ce sont des rouleaux. Bon, donc nous disposons d'un ensemble de manuscrits dispersés dans le monde entier, dans l'ensemble des grandes bibliothèques du monde entier. Ces manuscrits, ce sont des copies de copies de copies de copies. Ces manuscrits, on peut les rassembler selon différentes familles et essayer, les rassemblant en différentes familles, de reconstituer le manuscrit source qui est à l'origine de ces différentes copies. Parce que les copies font des erreurs en recopiant le livre. Donc, tout l'enjeu de la critique textuelle, pour le dire d'un mot, ça consiste, à partir de la nébuleuse de manuscrits dont nous disposons, à essayer de supprimer les erreurs pour remonter vers un manuscrit hypothétique premier, qui est, disons, l'état premier du texte. Ce travail est un travail scientifique, précis, mais qui fait que le texte biblique lui-même ne cesse d'être amélioré, parce qu'on découvre des nouveaux manuscrits, parce que l'informatique permet un meilleur travail sur les manuscrits, qui fait que le texte même de la Bible ne cesse de changer. Bon. Le texte même de la Bible ne cesse d'être précisé à partir des manuscrits disponibles, qui permet de remonter vers un état premier du texte. Mais cet état premier du texte, vous voyez qu'il est, le moment où on va le fixer est arbitraire, parce que est-ce qu'il faut remonter, plus on remonte loin, plus on supprime du texte, plus on avance dans le temps, plus on rajoute des phrases qui ont été rajoutées par les auteurs, est-ce qu'il faut les rajouter, ces phrases, est-ce qu'il faut, vous voyez, qu'est-ce que c'est que la Bible, à quel moment on dit que le texte est fini? Je prends les choses dans l'autre sens. Quelqu'un écrit une histoire. Quelqu'un d'autre la complète. Un troisième auteur va la compléter. Bon. Est-ce qu'il faut retenir ce troisième état ou est-ce qu'il faut supprimer ce qu'a rajouté un troisième auteur pour revenir à un état antérieur du texte ou pas? Ce sont des questions compliquées qui ouvrent une marge de manœuvre. Tout ça pour dire que ce que c'est que le texte biblique, lui-même, c'est une question compliquée. Ensuite, lorsque nous lisons la Bible, nous la lisons en français, donc se pose le problème de la traduction. C'est un autre problème. Une fois qu'on a établi un texte biblique, premier problème, il faut le traduire. Deuxième problème. Il y a des traductions meilleures que d'autres, bien sûr. Donc, lire la Bible, et si vous êtes ici, présent ici ce soir, a du sens, c'est parce que vous allez lire la Bible ensuite. Il ne s'agit pas d'écouter comme ça pendant une heure et demie parler de la Bible et de repartir, il faut ensuite lire la Bible. Bon. Ce que nous ferons la prochaine fois. À la prochaine séance, nous prendrons les textes et nous lirons précisément les textes de la Bible. Donc il faut lire la Bible, donc il faut trouver une bonne traduction. En français, il existe deux bonnes traductions. Trois, nous allons mentionner deux. La Bible qu'on appelle la Bible de Jérusalem, et la Bible qu'on appelle la traduction œcuménique de la Bible, la TOB. La Bible de Jérusalem et la TOB sont deux bonnes traductions en français de la Bible. Il faut prendre des traductions avec des notes qui expliquent les choix du traducteur, qui expliquent les mots. Donc il faut prendre des Bibles, si je puis dire, complexes, des grandes Bibles. L'édition intégrale de la Bible de Jérusalem ou l'édition intégrale de la TOB, de la traduction œcuménique de la Bible, et c'est un achat important parce que ça vaut pour toute votre vie ensuite, une fois que vous avez acquis une bonne Bible, c'est une Bible qui permet de lire et de travailler. Je voudrais dire un mot maintenant du contenu de la Bible. De quoi ça parle? Alors déjà, comme je l'ai dit, il y a plusieurs livres dans la Bible. Donc il y a plusieurs genres littéraires. Il y a des récits, des histoires. La Bible, ça raconte des histoires. Il y a des codes de loi. C'est aussi un texte juridique, la Bible. Mais ces codes de loi sont toujours mis dans des histoires, ce qui est intéressant. Il y a des poèmes. Il y a des chansons, il y a des proverbes. Donc il y a différents genres littéraires. Il y a des oracles prophétiques, etc. Ce sont, encore un mot sur le contenu, de quoi parle la Bible ? La Bible parle essentiellement de l'homme. La Bible parle de l'homme. Parle de l'homme, de ce qui lui arrive, de son expérience, de sa mémoire, de ce qu'il espère, de ce qu'il désire, des épreuves qu'il traverse. Je voudrais insister sur un point qui me semble important, c'est le point suivant. La Bible, ça parle de nourriture, ça parle de repas. On ne cesse de manger dans la Bible, tout le temps. Tout le temps, on mange. La Bible parle de bouffe du début à la fin. Première fois que Dieu s'adresse à l'homme, c'est pour lui parler de gastronomie. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc c'est pour parler de nourriture que Dieu s'adresse à l'homme. Ça, c'est intéressant. Dieu ne s'adresse pas à l'homme pour lui parler, pour lui dire « aime ton prochain » ou pour lui dire « adore-moi » ou quoi que ce soit. Dieu parle à l'homme de nourriture dès qu'il lui adresse la parole. Ensuite, le thème de la nourriture, du repas, structure l'ensemble du récit, l'ensemble des récits. C'est vrai pour la plupart des livres bibliques, c'est vrai éminemment pour le livre d'Esther, qui est un livre structuré par un ensemble de banquets, où on va de repas en repas. C'est vrai bien évidemment pour les évangiles, qui sont structurés autour de repas. La multiplication des pains, deux fois, bien qu'on comprenne que le repas c'est important, la scène, l'Eucharistie, et jusqu'à l'Apocalypse, il sera question de repas. Donc cette question de la nourriture, j'espère qu'on y viendra la prochaine fois lorsqu'on lira les textes de la Genèse, la question de la nourriture et du repas est une question fondamentale dans la Bible. Je n'en dis pas plus pour l'instant sur ce thème du repas et de la nourriture. De toute façon, nous le savons tous. Les choses importantes se décident pendant des repas. C'est vrai en amour, c'est vrai en affaires. Beaucoup de choses importantes, beaucoup d'idées qui viennent. C'est au cours des repas que les choses se font, se décident. C'est au cours des repas qu'on fait la fête. C'est au cours d'un repas qu'on fête un anniversaire. On sait bien que le repas, c'est important. Mais pourquoi le repas c'est important anthropologiquement et dans la Bible? Parce que la question de la nourriture a à voir avec deux autres thèmes qui structurent la vie de l'homme. D'une part la sexualité, le repas ça a à voir avec la question de la sexualité, parce que le repas ça a à voir avec la question du désir, avec l'acte de manger, donc avec le rapport avec l'autre, avec l'altérité, bon. Et le repas ça a à voir avec la violence. Manger c'est détruire. Manger, c'est détruire ce que l'on mange. Donc le repas et la nourriture, c'est important parce que ça a à voir avec les deux réalités fondamentales de l'existence humaine, la sexualité et la violence. On y reviendra, on ne dit pas plus sur ces thèmes. La Bible, j'ai dit, il y a des lois et il y a des récits. La Bible, c'est écrit par un peuple. C'est écrit par un peuple, Israël. C'est le peuple qui écrit le livre, mais on peut dire dans l'autre sens, c'est le livre qui fait le peuple. Si le peuple se constitue comme peuple, c'est par le livre. C'est le livre qui fait le peuple. Le peuple juif, c'est le peuple qui tient parce qu'il se reconnaît dans un livre, la Bible. Donc, le peuple écrit le livre, sa loi, son histoire, et c'est le livre qui fait le peuple. Ce qui est vrai également pour les chrétiens, c'est les chrétiens qui font le livre, qui reconnaissent ce livre, qui font l'unité de ce livre qui s'appelle la Bible, et qui reconnaissent ce livre comme important et qui constituent ce livre, qui l'écrivent. Ce sont les chrétiens qui écrivent les évangiles, les chrétiens qui écrivent la Bible. Et en même temps, s'il y a des chrétiens, c'est parce qu'il y a la Bible. Donc, c'est la Bible qui fait les chrétiens. Le chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est saisi par le texte. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a été saisi par le texte biblique. C'est ça qui fait le chrétien. Je reviendrai peut-être plus tard, mais en conclusion, sur cette expression. Je crois que c'est comme ça qu'il faut dire les choses. C'est comme ça que les choses sont justes. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a été saisi par le texte de la Bible. C'est quelqu'un qui a fait l'expérience du texte. Voilà, un chrétien, c'est quelqu'un, fondamentalement, un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience du texte. Je crois que c'est plus juste de dire ça que de dire l'expérience de Jésus, ou l'expérience de l'Église, etc., ou l'expérience de Dieu. Je crois que fondamentalement, un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience du texte de la Bible. La Bible, c'est un projet d'histoire, mais un projet d'histoire très particulier. Particulier par rapport à quoi? Par rapport aux différentes histoires écrites par les différents peuples du bassin méditerranéen contemporain du peuple d'Israël. Il y a les Égyptiens, il y a la Mésopotamie, il y a Sumer, les différents peuples qui ont à chaque fois une institution royale, et l'institution royale engendre du récit, les annales, des différents royaumes, mais la Bible n'est pas les annales du royaume d'Israël, qui existent par ailleurs et qui sont citées dans le texte biblique. Dans la Bible, on parle des annales du peuple hébreu, de la royauté qui s'installe à Jérusalem, mais la Bible, ce n'est pas ça. La Bible, c'est un projet d'histoire sainte. Voilà, c'est un projet d'histoire sainte. Donc c'est pas les annales du peuple d'Israël, mais c'est l'histoire du peuple d'Israël dans sa relation à Dieu. C'est l'histoire d'un peuple qui a conscience de lui-même comme peuple, en relation permanente à un personnage qui a un statut particulier dans le texte, qui s'appelle Elohim ou Adonai. Ou un nom que l'on ne prononce pas, qui s'écrit de trois lettres, qu'on appelle le tétragramme, que souvent dans les Bibles, on écrit avec quatre lettres de notre alphabet à nous, YHWH, et que parfois, auquel parfois on ajoute des voyelles, qu'on prononce Yahvé. Bon. Mais Yahvé est une mauvaise manière de dire, puisque c'est une manière de vocaliser les quatre consonnes hébraïques, qui sont les quatre consonnes qui disent le nom, ou qui permettent d'écrire le nom imprononçable de Dieu. Donc, la Bible, c'est le projet d'histoire d'un peuple en relation avec son Dieu. Je parle maintenant depuis une demi-heure. Je vais vous demander si vous avez des questions. Des questions de compréhension ou d'information. Donc, si vous avez une ou deux questions de compréhension ou d'information, vous pouvez les poser maintenant. J'arrive à la fin d'un moment. Hein. Là, j'ai quelques éléments factuels pour essayer d'écrire ce que c'est que ce livre et je peux compléter en fonction de vos questions. Monsieur.
Est-ce qu'il existe une traduction officielle pour l'Église catholique?
Oui et non. Oui et non. Je vais répondre de deux manières différentes. En français, ne s'est pas imposé une Bible de référence, ce qui est le cas dans d'autres langues. En anglais, il y a une Bible de référence. Voilà. En allemand aussi, la Bible de Luther est la Bible qui fait référence en allemand. Bon. En français, il n'y a pas de Bible de référence qui fasse consensus. Il y a plusieurs traductions, en particulier deux principales, la Bible de Jérusalem et la traduction œcuménique de la Bible. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse. On pourrait dire une traduction officielle en français qui est la traduction liturgique, dont on se sert pour la messe, pour les messes en français, quels que soient les pays d'ailleurs, pour l'ensemble des pays francophones, il y a une traduction liturgique de référence, mais qui n'est pas une Bible de référence. C'est pas la même chose. Donc il n'y a pas de Bible de référence en français, non. Voilà. Oui, monsieur. Allez-y, allez-y.
Comment expliquez-vous la réticence de questions trop vastes de l'Église catholique pour le moment à ce que c'est ? Parce que les pratiquants
la réticence à ce que les catholiques lisent la Bible en France, mais je crois que c'est vrai dans l'ensemble du monde catholique, alors que traditionnellement on dit qu'il faut le relativiser, que les protestants lisent plus la Bible, parce que la Bible, c'est un livre dangereux. Parce que la Bible, ça parle de viol, d'inceste, de meurtre, beaucoup, de personnages qu'on va considérer comme des personnages importants, des saints, si je puis dire, en prenant le saint au sens très large du terme, par exemple, les patriarches, les rois, David, Salomon, etc. Donc des gens qu'on va donner en exemple aux chrétiens, et des gens dont la vie n'est pas toujours exemplaire. Lorsque, par exemple, je prends cet exemple parmi plein d'autres, le roi David, qui a déjà beaucoup de femmes chez lui, à sa disposition, aperçoit dans sa piscine la femme de son général en chef en train de se baigner. Et, lui dit le texte, il se met à éprouver du désir pour elle. Donc il la prend, de mots, il couche avec elle, et pas de peau, elle tombe enceinte. Donc là, du coup, il ne peut plus cacher qu'elle est tombée, qu'il a eu des rapports sexuels avec elle. Il va se débrouiller pour que son général en chef, dont c'est la femme, meure sur le champ de bataille, donc il va mettre un stratagème pour le tuer, pour pouvoir ensuite la prendre comme femme, dans un temps relativement court, pour légitimer le fait qu'elle soit enceinte de lui. Voilà, voilà ce que raconte la Bible, des histoires comme ça. Or, des histoires comme ça ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Ce qui explique pourquoi le clergé a été réticent à ce que la Bible soit lue par les chrétiens pendant longtemps. C'est une réponse à votre question. Oui, alors je vais répondre d'un instant à la question d'historicité, monsieur. Une élection de droit s'est élevée.
C'est bon. Ça. Si les textes canoniques ont été retenus au XVIe siècle, quelle valeur on accorde à ce qu'on appelle apocryphe, si je ne me trompe pas, et qui existait donc jusqu'au XVIe siècle et qui avait une valeur identique?
Alors, je répondrai d'abord à cette question, ensuite à la question de l'historicité. Oui et non. Parce que j'ai dit que le processus de canonisation du texte biblique, c'est de la reconnaissance, disons, du caractère inspiré de certains textes, est un processus long qui aboutit au XVIe siècle, mais dès la fin du IIe siècle, il y a un consensus sur les livres qui sont les livres inspirés. Il y a un consensus sur les évangiles ou les lettres de Paul qu'on lit à la messe. Voilà. Donc c'est un processus long qui aboutit au XVIe siècle, mais c'est pas d'un coup au XVIe siècle qu'on a fait un choix. Au XVIe siècle, on a reconnu un choix qui a mis 15 siècles à se faire. Voilà. 14 siècles à se faire. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait dire les choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que un texte est un texte qui fait partie de la Bible parce que c'est reconnu par l'Église comme un texte inspiré. Donc, ce n'est pas l'auteur du texte qui fait la valeur du texte. Donc, si on retrouvait aujourd'hui une lettre dont on serait sûr qu'elle est de saint Paul, elle ne ferait pas pour autant partie de la Bible. Ce ne serait pas pour autant une lettre qui est la parole de Dieu. C'est pas parce que c'est Paul qui l'a écrit que c'est la parole de Dieu. Mais parce que l'Église, au cours d'un processus long, a reconnu qu'un certain nombre de textes étaient la parole de Dieu. Je vais répondre à la question de l'historicité. Il faut distinguer. Alors, l'ordre de rédaction des livres de la Bible n'est pas l'ordre de présentation des livres que nous avons dans nos Bibles. Dans nos Bibles, on a, lorsqu'on l'ouvre, un texte qui est un texte de création, le premier récit de création, Genèse 1, oui, pardon, une incise là dans ma réponse. Les livres bibliques sont divisés en chapitres. Les chapitres, il peut y en avoir un seul, puisqu'il y a des livres très courts, des livres qui font une page, hein, les livres bibliques qui font une page, et puis il y a des livres qui font 50 chapitres, comme la Genèse, 66, c'est le plus long, le livre d'Isaïe. Donc les livres ont des longueurs très différentes. Ça fait qu'un livre biblique, c'est de une page, l'Épître à Philémon, par exemple, certains petits prophètes de l'Ancien Testament, de une page à 50 pages. Hein, la Genèse, ou Isaïe, ça fait 50 pages. Donc les livres bibliques sont divisés en chapitres. Un chapitre, c'est en gros une page. Ça s'est fait au Moyen-Âge. Et puis, vous savez tous, mais je le redis, chaque chapitre est divisé en versets. On appelle verset un groupe de mots d'une demi-phrase à deux phrases, précédé par un petit numéro, qui est le numéro du verset. Ce système-là, qui se met en place entre le XIIIe et le XVIe siècle, a l'avantage considérable qui permet de donner une référence très précise à un petit passage de la Bible qui vaut pour toutes les langues, toutes les traductions, toutes les éditions. Par exemple, Genèse 1.1, livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et vague. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux, et Dieu dit que la lumière soit, verset 2, etc. Rejoignons la parenthèse sur ce point. Donc à chaque livre est divisé en chapitres. On recommence la numérotation à chaque livre de la Bible. Chaque chapitre est divisé en versets. On recommence la numérotation des versets à chaque chapitre. Je ferme cette parenthèse. Je reviens à la question de l'historicité. J'ai dit que l'ordre de rédaction des livres de la Bible n'est pas l'ordre de présentation des livres que nous avons aujourd'hui dans nos Bibles. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous avons un premier récit de création, création à partir d'un chaos initial, création qui veut dire séparation, Dieu sépare la lumière des ténèbres, Dieu sépare le haut du bas, les eaux d'en haut, des eaux d'en bas, Dieu sépare la terre ferme de la mer. Donc, création, ça veut dire séparation, fondamentalement. Bon. Donc on a un premier récit de création, et puis d'un coup, on poursuit, on arrive au chapitre 2, verset 4, et là, c'est comme si tout, rien n'avait été fait, on a d'un coup un deuxième récit de création. On ne comprend pas. On avait un récit qui se suivait, puis d'un coup, on dit, il n'y a rien, et Dieu se met à créer. Donc là, on se dit d'un coup, il y a deux récits de création qui se suivent, qui sont un peu différents l'un de l'autre. Donc il y a une histoire de rédaction qui est complexe. On a mis deux textes l'un à la suite de l'autre. On a collé deux textes. Donc on voit qu'il y a des soudures, plus ou moins visibles, de morceaux pour faire le texte de la Bible. On s'aperçoit aussi que le premier récit de création est plus subtil que le deuxième. Le premier récit de création, Dieu crée par sa parole. Alors que dans le deuxième récit de création, Dieu, c'est un monsieur qui se balade dans un jardin et qui fait de la poésie. Il y a des choses intéressantes sur Dieu, pour un chrétien, bien sûr. Mais on voit que c'est un récit qui a été sans doute rédigé avant. Donc placé après, mais rédigé avant. Le récit de création est un récit qui suppose, pour plein de raisons, d'autres textes qui sont placés après dans nos Bibles, mais qui ont été écrits avant. Par exemple, le passage de la mer Rouge, la sortie d'Égypte. Le peuple a commencé à essayer de comprendre pourquoi c'est un peuple, pourquoi Israël est un peuple. Il est un peuple parce que Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Et puis, le peuple d'Israël est remonté peu à peu vers ses origines de plus en plus lointaines. On est un peuple, pourquoi? Parce que, à la suite de Moïse, nous avons été libérés par Dieu d'Égypte. Oui, mais avant la libération d'Égypte, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Donc on remonte vers l'origine. Oui, mais avant Abraham, il y avait quoi ? Il y avait Dieu qui a créé le monde. Bon. Vous voyez que le processus part du moment présent vers l'origine. On remonte vers l'origine, dans la prise de conscience par le peuple hébreu de son histoire. Bon. Voilà, premièrement. Ensuite, il y a des livres qui racontent des histoires qui ont eu lieu. Qui ont eu lieu, disons, à partir du roi David. Le roi David, c'est l'an 1000. Schématisé, hein. L'an 1000, le roi David, puis son fils Salomon, et puis une institution royale des rois, jusqu'à l'exil, début du XVIe siècle, 587, exil à Babylone. Donc, de l'an 1000, au début du VIe siècle, on a un récit, des récits historiques, qui essayent de comprendre l'histoire de ce peuple, à la lumière de la relation avec Dieu, à la lumière de ce concept théologique important qu'on appelle l'alliance. L'alliance. La relation entre un peuple et son Dieu. Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. La formule fondamentale de l'alliance, clé de lecture de l'Ancien Testament, je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. Lien entre un Dieu et son peuple. Et prise de conscience progressive que ce Dieu était le seul Dieu. Au départ, pas Dieu, c'est le Dieu de ce peuple-là, ce qu'on appelle la monolatrie. Ce peuple a un seul Dieu. Et puis, chaque peuple a ses dieux. Et puis, peu à peu, mouvement vers le monothéisme, prise de conscience que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est au-dessus de tous les autres, et puis, finalement, que c'est le seul Dieu, et donc que les autres dieux sont des idoles. Bon. Prise de conscience progressive de qui est Dieu. Suit les éléments de réponse à la question. On ne peut pas abstraire la Bible de l'histoire. La Bible, c'est Dieu qui parle dans l'histoire. Dieu parle dans l'histoire des hommes. Dieu parle dans notre histoire. Et la Bible, ça raconte la manière dont Dieu parle dans l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël, depuis Abraham, premier ancêtre, jusqu'à Jésus-Christ et la manière dont les apôtres racontent l'histoire de Jésus-Christ. Dieu parle dans l'histoire. La Bible, la religion chrétienne, aussi et de manière très forte, est fondée sur un événement historique, la vie de Jésus-Christ. On va dire que Jésus-Christ, c'est un concept, ou quelque chose de théorique, non. C'est quelqu'un qui a existé dans l'histoire. Donc, la religion chrétienne se fonde sur quelqu'un qui a existé dans l'histoire. Monsieur Jésus, Monsieur Pierre, Monsieur Jean, etc. Les gens qui ont existé. Donc, les dimensions historiques et fondamentales. Donc, je reprends en disant deux choses. La dimension historique est fondamentale, mais cette histoire est relue, réinterprétée à la lumière de la relation avec Dieu. On n'a pas l'histoire sainte. Dans un processus de remonter vers l'origine, jusqu'à la création. J'ai dit aussi. Bon. Il faut distinguer des livres bibliques qui ont un rapport évident, immédiat, bien que ça soit pas tant que ça, avec l'histoire, c'est-à-dire depuis le roi David, si vous voulez, depuis Moïse, et puis des récits qu'on trouve dans le livre de la Genèse qui n'ont pas de rapport immédiat avec l'histoire. Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches. Les 11 premiers chapitres de la Genèse, la création, le déluge, Caïn avant le déluge, la tour de Babel, après, pour prendre des épisodes que tout le monde connaît, donc les 11 premiers chapitres de la Genèse, ce qui se trouve avant Abraham, qui sont des récits qui n'ont pas, oui, qui n'ont pas de fondement historique. Voilà, qui n'ont pas de fondement historique. Bon. Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce qu'ils ont existé? Oui et non. Oui et non. Monsieur Abraham, il n'a pas existé tel que le récit nous le raconte. Donc ils n'ont pas existé parce que c'est pas, il ne s'agit pas de raconter, de faire un reportage sur quelqu'un qui aurait existé. Bon. Il existe au sens où, ce personnage a un effet dans l'histoire. Il forme l'identité d'un peuple. En sens ça, il est réel. Parce qu'il a des effets dans l'histoire. Mais c'est pas un personnage historique. Voilà. Ni Abraham, Isaac, ni Jacob. On peut toujours discuter pour Moïse. Moïse est un personnage historique. Peut-être pas, peut-être. Bon. Mais à mon avis, l'essentiel n'est pas là, de toute façon. Parce que c'est pas parce que ça n'a pas existé, au sens le plus banal du mot exister, que ce n'est pas vrai. C'est ce qui est une autre question. Est-ce que c'est vrai? C'est pas parce que ça n'a pas existé que c'est pas vrai. Monsieur Adam, Madame Ève n'ont certainement pas existé. Mais la question du désir, de la transgression, de la loi, de la place laissée à l'autre, de ce que c'est qu'un homme, de ce que c'est qu'une femme, du désir d'un homme pour une femme et réciproquement, de ce que veut dire manger, tout ça, ça existe. Donc je crois que ce que dit le texte de la Genèse, j'espère que la prochaine fois je vous montrerai, c'est vrai. Ce que dit le texte de la Genèse, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que Adam et Ève ont existé. Hein, vous voyez la différence. Est-ce que j'ai répondu à votre question? À peu près. On l'éclairera, on reviendra aussi, on aura le temps de revenir sur tout ça. Voilà. Donc voilà, en 50 minutes, une introduction à la Bible. Je voudrais maintenant, dans une deuxième partie, et je voudrais qu'on ait le temps de discuter et qu'on ait le temps de répondre à des questions. Donc, dans une deuxième partie, qui en tout cas ne dépassera pas 20 minutes, je voudrais dire d'autres choses. Je voudrais me demander ce que veut dire lire la Bible, et plus précisément, ce que veut dire lire la Bible comme un texte inspiré. Bon, d'abord, je redis, je crois que c'est important de lire la Bible, et de lire toute la Bible, de pas, pour les chrétiens, se contenter des petits bouts disparates que nous avons à la messe le dimanche ou en semaine, de petits bouts disparates, accessibles au plus grand nombre, qui suppriment tout ce qui fait difficulté dans les psaumes et dans les textes bibliques, qui suppriment tout ce qui peut le moins tout ce qui pourrait être amené à choquer les gens. Bon. Donc, en un sens, c'est un peu exagéré, ce que je veux dire, on lit pas la Bible à la messe. On lit pas la Bible. On lit des petites vignettes, qui, dans le meilleur des cas, nous permettent de rencontrer la parole de Dieu, et dans le pire des cas, nous présentent une vague morale bourgeoise du 19e siècle pour qu'on s'aime bien. Bon. Mais il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible, d'abord, Parce que quand on est cultivé, on lit la Bible intégralement, d'un bout à l'autre, dans l'ordre, comme un roman. Voilà, comme un roman. Comme on lit Les Misérables de Victor Hugo, on lit la Bible d'un bout à l'autre. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous lisez une demi-heure, trois quarts d'heure par jour, en deux ans, vous avez lu la Bible. Voilà. Une demi-heure tous les soirs, en deux ans, vous avez lu la Bible. Dans la Bible, Dieu parle. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette phrase, « Dans la Bible, Dieu parle ». Comment reconnaît-on la parole de Dieu, la parole de Dieu, dans le texte biblique? Qu'est-ce que lire les Écritures comme un texte inspiré? Y a-t-il un acte de lire mis en jeu qui serait propre et qui caractériserait comme tel l'acte de lire la Bible comme parole de Dieu. C'est à cet ensemble de questions que je voudrais m'attacher pendant le gros quart d'heure qui vient. Le Concile Vatican II, dans un texte qui s'appelle Dei Verbum, que j'ai cité la dernière fois que je vous ai où j'ai parlé de la parole de Dieu parle-t-il, dans Dei Verbum, on nous dit, le Concile nous dit, que la Bible a à la fois Dieu pour auteur, voilà, Dieu pour auteur, mais aussi qu'il y a des hommes qui sont des auteurs et qui écrivent selon leurs ressources et leurs facultés propres. C'est-à-dire que ces hommes qui ont écrit la Bible ne sont pas que des tuyaux de transmission par lesquels Dieu l'aurait parlé. Les auteurs des textes bibliques sont des véritables auteurs. Donc, la Bible a à la fois, c'est compliqué à penser la conjonction des deux, à la fois Dieu pour auteur, on pourrait dire qu'est-ce qui fait l'unité de la Bible théologiquement, c'est son auteur, et son auteur c'est Dieu. Bon. Mais il faut dire aussi que la Bible a des auteurs, des hommes, qui ont écrit la Bible et qui sont des véritables auteurs. Donc l'écriture inspirée est vraiment de Dieu et vraiment de l'homme, parfaitement humaine et parfaitement divine, sans séparation ni confusion. La Bible est écrite 100% par Dieu, manière de lire la Bible, bon, et on peut dire aussi 100% par les hommes, et s'étudie comme n'importe quel livre. Alors, pour un chrétien, on a une clé lecture pour penser ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est 100% Dieu, Jésus-Christ c'est Dieu, mais c'est aussi un homme, parfaitement un homme, son corps est en bonne santé ou malade, fatigué ou affamé, comme n'importe quel homme, il obéit aux lois de la médecine, comme n'importe quel homme. Bon. Donc, de la même manière que Jésus-Christ est entièrement Dieu et entièrement homme, sans séparation et sans confusion, la Bible est entièrement la parole de Dieu, entièrement la parole d'homme, sans séparation ni confusion. L'affirmation de l'inspiration des Écritures ne dit pas seulement ce qu'elles sont, mais est également prescriptive quant à la manière dont nous devons les lire et user d'elles. Nous lisons la Bible de manière particulière parce qu'elle est inspirée par l'Esprit Saint. Si nous déployons la signification de l'inspiration des Écritures, nous rencontrons trois dialectiques, trois mises en rapport, trois fois deux termes qu'il faut penser ensemble. La Bible est écrite par des hommes d'époques et de langues différentes, et elle a Dieu pour auteur. L'Église confesse, en vertu de la foi reçue des apôtres, qu'elle a l'Esprit Saint comme auteur. La Bible est la parole de Dieu. C'est une unique parole de Dieu qui s'étend à travers toutes les Écritures, dit saint Augustin. Il ajoute, c'est par des multiples bouches des saints, par les multiples bouches des saints, c'est un unique verbe, une seule parole qui résonne. Donc, c'est ce que je viens de dire, dialectique entre un auteur qui est Dieu, des auteurs qui sont des hommes. Deuxièmement, la Bible n'est pas des archives, comme on lit par exemple la guerre des Gaules de Jules César, qui raconte l'histoire des batailles de Jules César en Gaule. La Bible, c'est Dieu qui s'adresse à nous lecteurs de la Bible, ici et maintenant. L'auteur biblique ne témoigne pas, ou pas seulement d'événements passés, il témoigne de Dieu, et nous sommes faits témoins de son témoignage, témoins de Dieu à notre tour. C'est aujourd'hui, comme c'est un mot que l'on trouve dans c'est ce que dit Jésus à la synagogue de Nazareth dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, versets 16 à 20. Jésus dit, c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. Et bien, de la même manière que Jésus, lisant le livre d'Isaïe et disant à la synagogue de Nazareth, c'est aujourd'hui que la parole s'accomplit, lorsque nous disons, lorsque nous lisons la Bible, nous disons aussi, c'est aujourd'hui que la parole s'accomplit. La parole biblique ne nous raconte pas que des événements passés, c'est Dieu qui nous parle aujourd'hui, ici et maintenant, lorsque nous lisons la Bible. C'est aujourd'hui que la parole de Dieu résonne à notre cœur et d'abord à nos oreilles. C'est dans l'actualité de son énonciation, dans l'actualité de son énonciation comme parole vive, que l'Écriture est reconnue comme inspirée. Enfin, troisièmement, l'inspiration des Écritures met en œuvre une dialectique du vivant et du mort. En effet, les auteurs humains de la Bible sont tous morts. Les auteurs humains de la Bible sont tous morts depuis des siècles. Mais la parole vivante de Dieu ne cesse de venir à nous à travers la Bible. Vivante, en effet, est la parole de Dieu, dit l'Épître aux Hébreux. La parole de Dieu, dit Origène, a quelque chose d'étrange par rapport à la parole de n'importe qui. Elle a ceci d'étrange d'être Dieu, d'être, tout en étant une parole, un vivant, d'exister en soi, de servir le Père. Donc la lecture de la Bible est prise dans une triple dialectique, de l'un et du multiple, multiplicité des auteurs humains, unité de l'auteur, Dieu, dans une dialectique du présent et du passé. La Bible nous parle d'événements passés, et pourtant, elle s'adresse à nous aujourd'hui, ici et maintenant, et dans une dialectique du mort et du vivant. Tous les auteurs bibliques sont morts, et pourtant, la Bible est un texte vivant. La parole de Dieu est vivante pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas, certes, nous pouvons interroger le texte biblique, nous demander quand est-ce qu'il a été écrit, par qui, etc. Mais, dans une lecture chrétienne du texte biblique, j'explique, je suis en train d'expliquer, vous l'avez compris, une lecture chrétienne du texte biblique, ce n'est pas nous qui interrogeons la Bible, mais c'est à l'inverse la Bible qui nous interroge. Je cite Claudel, un petit texte de la fin de sa vie qui a été publié sous le titre « J'aime la Bible ». Il n'est pas juste de dire que nous interrogeons l'Écriture. Il serait plus exact de reconnaître que c'est l'Écriture qui nous interroge et qui trouve en chacun de nous, à travers tous les temps et toutes les générations, la question appropriée. Cela veut dire que je ne suis pas la mesure de la parole de Dieu. Il y a incommensurabilité entre la parole qui vient à moi et moi-même. La parole de Dieu est plus puissante que moi, elle me contient et elle m'embrasse. On ne peut pas égaler la parole de Dieu. Et en ce sens, lire la parole de Dieu n'est pas du même ordre que lire les plus grandes œuvres de la littérature mondiale. La parole de Dieu est puissante, nous dit le texte, elle fait ce qu'elle dit. La parole de Dieu fait ce qu'elle dit. Il y a une puissance de la parole de Dieu elle-même. Et il faudrait dire, ce n'est pas l'homme qui produit la parole de Dieu, ce n'est pas l'homme qui écrit, ce n'est pas l'homme qui engendre la parole de Dieu, mais c'est plutôt la parole de Dieu qui engendre l'homme. Ce qui est premier, et là on a un retournement passionnant, ce qui est premier, ce n'est pas le monde, et la parole de Dieu qui vient après, et qui dit les choses, ce qui est le processus, j'allais dire normal, et qu'on trouve dans toutes les cultures. Il y a un monde, et la parole dit le monde. Mais dans la Bible elle-même, le processus s'inverse. La parole est première par rapport aux choses. Et Dieu dit que les animaux soient, et Dieu dit que les... etc. La parole est première. La parole est première par rapport aux choses. Et là, on a un retournement, un retournement qui est très intéressant. Et je vous parle en philosophe, moi je fais la philosophie, et pour un philosophe, ce retournement est très intéressant. Cette manière qu'a ce peuple-là, le peuple hébreu, de retourner les choses, si je puis dire. Il n'y a pas un monde et une parole qui dit le monde, il n'y a pas un monde et des hommes qui disent des choses du monde, mais il y a une parole qui est première et une parole qui fait exister le monde, qui fait exister les choses et qui fait exister moi qui lis le texte biblique. Comme dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13, devant la parole, je suis nu. Je me présente nu devant la parole de Dieu révélée dans l'Écriture, c'est-à-dire, je reçois la parole telle qu'elle se donne. Je me présente moi-même devant la parole lue, entendue, répondue, ou plutôt, ça, c'est une manière particulière de lire la Bible, une manière croyante de lire la Bible, dans, par exemple, l'office liturgique, la lectio divina, les exercices ignatiens, etc. Ou plutôt, je ne suis pas nu devant la parole de Dieu, ou ce n'est pas la parole de Dieu qui m'interroge, enfin, si, c'est la parole de Dieu qui m'interroge, mais je ne me présente pas nu devant la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui me dénude. Le texte inspiré me renvoie à moi-même, me constitue moi-même. Le sujet qui lit la Bible n'est pas quelqu'un qui est confronté à un texte, mais il devient quelqu'un par la lecture même du texte. Il devient chrétien. Le chrétien est quelqu'un qui a lu la Bible. C'est le texte lui-même qui fait le chrétien. On n'est pas, le chrétien n'est pas un chrétien qui lit la Bible. Il devient chrétien parce qu'il lit la Bible. C'est la lecture de la Bible qui fait le chrétien. De cette présence dénudée et dénudante devant le texte inspiré, il faut en tirer les conséquences alors concernant l'acte de lire et son retournement. En effet, une lecture qui étudie vise normalement à maîtriser le plus possible la langue, la forme et la teneur de ce qu'elle lit, de façon à se l'assimiler, à se l'approprier. Dans le cas de la Bible, si cette visée demeure, bien sûr, on assiste à un déplacement du centre de gravité et à une perte de maîtrise. Il ne s'agit pas de maîtriser, mais de se laisser maîtriser. Il ne s'agit pas de questionner, mais de se laisser atteindre et saisir par les questions que pose le texte. Il ne s'agit pas de lire, mais de se laisser lire par le regard qui se tourne vers nous depuis les Écritures.
Il est déjà 22h11. Je vais m'arrêter sur ce 21h, pardon. Je vais m'arrêter là. Il nous reste une vingtaine de minutes. Voilà. Il faudrait poursuivre bien sûr beaucoup plus ce que je viens de dire là. J'essaie d'introduire en essayant de tenir, vous voyez, l'équilibre entre deux manières de lire la Bible, de manière de présenter le texte biblique, d'abord une approche générale avec des informations, hein, et puis une approche en essayant de décrire, si je puis dire, en un sens, en regardant de l'extérieur, en philosophe, la manière qu'ont les chrétiens de lire la Bible. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire rapidement. La manière qu'ont les chrétiens de lire la Bible. On retrouve un retournement que j'avais déjà suggéré à la première séance lorsque j'ai parlé de Karl Barth. Lorsque j'ai parlé de Karl Barth, j'ai été ensuite soumis à une salve de questions. Ceux qui étaient là s'en souviennent. Où quelqu'un m'a dit la chose suivante. J'ai dit en gros, je caricature ma caricature, donc que la raison on n'en avait rien à faire, et ce qui compte, c'était de se laisser se saisir par Dieu, qui nous saisit, qui saisit la subjectivité, la retourne vers lui. En gros, j'ai dit ça. Et qu'il ne s'agissait pas que Dieu échappait à nos prises. Bon. Et quelqu'un qui était là-bas sur mon côté gauche, a dit « c'est inquiétant ». Et j'ai répondu « trop vite sans doute, mais je maintiens ce que j'ai répondu en disant la chose suivante, c'est inquiétant, oui, parce que Dieu est inquiétant. Dieu est inquiétant dans la Bible. L'effroi de Moïse au Sinaï, l'effroi d'Isaïe, les prophètes qui disent « non, non, demande à quelqu'un d'autre, moi je veux pas », etc. Dans la Bible, l'expérience de Dieu se donne aussi, d'abord, comme l'expérience de l'effroi devant la sainteté de Dieu, Isaïe, etc. Bon. Donc d'une part, oui, c'est inquiétant, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce que nous raconte la Bible, saisit des hommes qui ne font plus ce qu'ils veulent ensuite. Pensez à Jonas, tout le monde connaît l'histoire, il veut se barrer, Dieu le rattrape, il ne peut pas échapper à la parole de Dieu. Donc c'est inquiétant parce que devant le texte biblique, celui qui le lit, celui qui rencontre la parole de Dieu dans le texte biblique, est retourné, est transformé. Donc en ce sens-là, la parole de Dieu est une parole qu'on ne maîtrise pas, sur laquelle on ne met pas la main. C'est plutôt elle qui nous maîtrise. Et en ce sens-là, oui, la rencontre de Dieu est inquiétante. Dieu ne rentre pas dans nos catégories. Dieu ne rentre pas dans nos limites. Nous ne sommes pas la mesure de Dieu. C'est pas à nous de dire ce qu'est Dieu. C'est pas à nous de dire ce que doit être Dieu pour être Dieu. Quand on dit à propos de Dieu ou de sa présence, c'est impossible. Pourquoi c'est absurde de dire que c'est impossible? Comme si, lorsqu'il s'agissait de Dieu, nous étions la mesure de ce qui est possible ou de ce qui est impossible. Nous ne sommes pas la mesure de ce que Dieu peut ou ne peut pas. Certes, notre raison nous dit ce qui est possible et ce qui est impossible. Naissance virginale de Marie, résurrection, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Bien sûr, c'est impossible. Ça rentre pas dans nos catégories. Nous ne pouvons pas le comprendre, au sens où nous ne pouvons pas le justifier, le prévoir, l'assimiler, comme nous prévoyons, justifions ou assimilons la loi de la chute des corps, ou le fait que l'eau boue quand on allume le gaz dessous, etc. Bon. Donc, bien sûr, c'est impossible. Mais c'est pas parce que c'est impossible que ça n'a pas lieu. Lorsqu'il s'agit de Dieu, nous ne sommes pas à la mesure de ce qui est possible ou impossible. Ou plutôt, il s'agit de Dieu parce que c'est impossible. Les miracles, etc. Si c'est possible, nous n'avons pas besoin de Dieu. Si nous sommes dans l'ordre du possible, nous pouvons le gérer. Être un homme, ça consiste à gérer le possible. Bon. Il s'agit de Dieu justement quand c'est impossible. L'impossible est justement le nom de Dieu. Dieu, c'est l'impossible. Il y a Dieu là parce que c'est impossible. Si c'est possible, Dieu n'est pas là. Dieu est là parce que c'est impossible, justement. Bon. Dieu est un événement. Dieu est un événement qui surgit. Un événement qu'on ne prévoit pas. On ne prévoit pas la rencontre de Dieu. Enfin, c'est vrai de toute rencontre. On ne prévoit pas une rencontre. Mais une rencontre, c'est quelque chose qui se donne à nous, qu'on ne prévoit pas, qui surgit et qui nous transforme. On est transformé par une rencontre. Donc, bien sûr, une rencontre, un événement, ça échappe à nos prises. Ça excède ce qu'on peut en comprendre. Donc, là, notre raison n'est pas la mesure de Dieu. On ne met pas la main sur Dieu. Mais alors, pourquoi, si je dis ça, ce que j'ai dit la fois dernière, pourquoi est-ce que j'ai été soumis à tant de questions qui faisaient apparaître une forme de scandale? Je me suis posé la question. Oui, parce que dans notre société, on cherche à supprimer l'événement. On cherche à supprimer ce qu'on ne maîtrise pas. On cherche à maîtriser la nature. C'est toute l'histoire de la physique depuis ses deux fondateurs, Descartes et Galilée, au XVIIe siècle. La physique moderne, la science moderne, ça consiste à maîtriser, à prévoir. Donc à faire entrer la nature et le réel dans nos catégories, dans ce qu'on peut en comprendre. Bon. On cherche à prévoir le plus possible. Une maison, c'est quoi? Là où vous habitez, c'est un endroit où il ne se passe rien. Une maison, c'est l'organisation d'un espace où on est sûr qu'il ne va rien se passer. On maîtrise tout. La technique, c'est justement ce qu'on maîtrise. Une maison, il ne se passe rien. Parfois, une lampe saute, un événement, mini-événement, on va réparer l'ampoule et on va faire attention à ce qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas d'événement dans une maison. On réalise un espace sans événement. un espace où il ne se passe rien, donc un espace rassurant, en un sens. Voilà. Alors que, effectivement, Dieu, la rencontre, une rencontre amoureuse, un amour, c'est quelque chose qui surgit, qu'on ne maîtrise pas, qui transforme, qui oblige à revoir l'ensemble de ce qu'on avait prévu, et donc qui va tout bouleverser. Voilà. Et en ce sens-là, c'est inquiétant. L'amour est inquiétant. Voilà ce qu'on peut dire dans le plus général. Et Dieu dans la Bible, Dieu est amour. J'ai besoin de penser à la chose suivante. On a fait une distinction qu'on a reprise des Grecs et qu'on a essayé d'appliquer à la Bible, mais ça ne marche pas parce que c'est une mauvaise distinction. Mais tous les cathos savent ça. Les distinctions entre Eros et Agapé. En disant, Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu biblique, c'est l'agapé, c'est-à-dire l'amour au sens on s'aime bien, et puis Eros, c'est l'amour érotique, le sexe, pour dire vite, et ça, mais c'est réservé à certaines catégories de relations dans la sphère érotique. Cette distinction n'est pas biblique. Et dans la Bible, il n'y a pas de distinction entre Eros et agapé. Dieu nous aide de manière érotique. Et le véritable amour est toujours érotique. Alors, il faut expliquer ce que c'est que l'amour érotique. Qui n'est pas la sexualité. On vit dans une société érotiquement très pauvre, et donc comme on vit dans une société érotiquement très pauvre, on réduit l'érotisme à la sexualité. L'érotisme, c'est bien plus vaste que la sexualité. Au XVIe siècle, quand on dit faire l'amour, c'est d'abord se parler. C'est d'abord un commerce au sens du XVIe siècle, un échange. Faire l'amour, c'est d'abord se parler, c'est d'abord la parole. Quand Dieu fait l'amour avec son peuple, c'est d'abord parce qu'il se parle, de manière amoureuse. Et puis il se fâche, il se dispute. Dieu est jaloux. Dieu dit, mais puisque c'est comme ça, je vais tout détruire. Et puis Dieu est en colère. Dieu est jaloux. Alors on va dire, ah ben c'est parce que c'est l'Ancien Testament, c'est parce que c'est une vision ancienne de Dieu. Mais il faut avancer un petit peu. On a fait des progrès. C'est-à-dire que la Bible a été écrite par des débiles pour des débiles. Je ne crois pas. Je crois que fondamentalement l'amour c'est ça. L'amour, c'est se fâcher, se réconcilier, être jaloux, etc. Et si Dieu aime comme ça, et si la Bible nous parle de Dieu de cette manière-là, c'est pas parce que le texte biblique a été écrit par des débiles pour des débiles. Voilà. Mais ça a un sens.